« Vous avez beau jeu, messire !» s'écria-t-il. « Apportez parole pour qui est au tombeau. Je vous opposerai, moi, que la vertu d'une reine vaut mieux qu'une province. Les belles alliances de Bourgogne que vous aviez si bien ourdies n'ont pas tourné à tel avantage qu'il faille vous prendre encore pour juge en la matière. Honte et chagrin, voilà ce qu'il en est résulté. » « Oui, cela est ainsi !» déclara brusquement le hutin.
« Sire, répondit Marigny avec une nuance de lassitude et de mépris, vous étiez bien jeune quand votre mariage fut décidé par votre père. Et Monseigneur de Valois n'y paraissait point tellement hostile alors, ni non plus par la suite, puisque voici moins de 2 ans il a choisi de marier son propre fils à la propre sœur de votre épouse, pour se rendre ainsi plus proche de vous. »
Valois accusa le coup, et sa couperose se marqua davantage. Il avait cru en effet fort habile d'unir son fils aîné, Philippe, à la sœur cadette de Marguerite, celle qu'on appelait Jeanne la Petite, ou la Boiteuse, parce qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre. Marigny poursuivait. « La vertu des femmes est chose incertaine, sire, autant que leur beauté est chose passagère. Mais les provinces restent. Le royaume s'étend si à gagner plus d'accroissement par les mariages que par les guerres. Ainsi, Monseigneur de Poitiers détient la comté franche. Ainsi,
« Ce conseil, dit brusquement Valois, va-t-il se passer à écouter messire de Marigny chanter sa propre louange, ou bien à pousser avant les volontés du roi ?»«
Pour ce faire, monseigneur, répliqua Marigny aussi vivement, il conviendrait de ne pas placer le chariot devant l'attelage. On peut rêver pour le roi de toutes les princesses de la terre, et je comprends bien que l'impatience le gagne. Encore faut-il commencer par le démarier de l'épouse qu'il a. » Monseigneur d'Artois ne paraît pas vous avoir apporté de Château-Gaillard les réponses que vous attendiez. L'annulation requiert donc qu'il y ait un pape,
ce pape que vous nous promettez depuis 6 mois, Marigny, mais qui n'est pas encore sorti d'un conclave introuvable. Vos envoyés ont si bien brimé et défenestré les cardinaux à Carpentras que ceux-ci se sont enfuis, soutane retroussée à travers la campagne. Vous n'avez pas la sujet d'afficher beaucoup votre gloire si vous aviez marqué plus de modération et un respect pour les ministres de Dieu qui vous est fort étranger. Nous serions moins en peine.
J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape qui ne fût que la créature des princes de Rome ou de ceux de Naples, pour ce que le roi Philippe voulait justement un pape qui fût serviable à la France. Les hommes épris de puissance sont avant tout poussés par la volonté d'agir sur l'univers, de faire les événements et d'avoir eu raison. Richesse, honneur, distinction ne sont à leurs yeux que des outils pour leur action. Marigny et Valois appartenaient à cette espèce-là. Ils s'étaient toujours affrontés et seul Philippe le Bel avait su tenir à bout de bras ses deux adversaires, se servant au mieux de l'intelligence politique du légiste et des qualités militaires du prince de sang. Mais Louis X était dépassé par le débat et totalement impuissant à l'arbitrer. Le comte d'Evreux intervint, tâchant à ramener les esprits au calme et avança une suggestion qui put concilier les deux parties. Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il acceptât pour pape un cardinal français.
Alors, certes, monseigneur, dit Marigny plus posément, un tel accord aurait un sens, mais je doute fort qu'on y parvienne.
Nous ne risquons rien à essayer, envoyons une ambassade à Naples, si tel est le vœu du roi.
Assurément, monseigneur.
« Bouville, votre conseil !»
dit brusquement le hutin pour se donner l'air de prendre l'affaire en main.
Le gros Bouville sursauta. Il avait été excellent chambellan, attentif à la dépense et majordome exact, mais son esprit ne volait pas très haut, et Philippe le Bel ne s'adressait guère à lui en conseil que pour lui commander de faire ouvrir les fenêtres.
« Sire, dit-il, c'est une noble famille où vous iriez prendre épouse. » Et où l'on maintient fort les traditions de chevalerie, nous aurions honneur à servir une reine. »
Il s'arrêta, interrompu par un regard de Marigny qui semblait dire « Tu me trahis, Bouville. » Entre Bouville et Marigny existaient de vieux et solides liens d'amitié. C'était chez le père de Bouville, Hugues II, grand chambellan d'alors, et qui devait être tué sous les yeux de Philippe le Bel à Mons-en-Pével, que Marigny avait commencé de servir en qualité d'écuyer. Et au long de son extraordinaire ascension, il s'était toujours montré fidèle au fils de son premier seigneur. Les Bouville appartenaient à la très haute noblesse. La fonction de chambellan, sinon celle de grand chambellan, était chez eux depuis un siècle quasi héréditaire. Hugues III, qui avait succédé à son frère Jean, qui lui-même avait succédé à leur père, Hugues II,
était par nature et par atavisme si dévoué serviteur de la couronne et si ébloui de la grandeur royale que lorsque le roi lui parlait, il ne savait qu'approuver. Que le hutin fût un sot et un brouillon ne faisait pas de différence. Et dès l'instant qu'il était le roi, Bouvines s'apprêtait à reporter sur lui tout le zèle qu'il avait témoigné à Philippe le Bel. Cet empressement reçut immédiatement sa récompense, car Louis X décida que ce serait Bouville qu'on enverrait à Naples. Le choix surprit, mais ne suscita point d'opposition. Valois, s'imaginant qu'il réglerait tout secrètement par lettre, estimait qu'un homme médiocre mais docile était juste l'ambassadeur qui lui convenait. Tandis que Marigny pensait « Envoyez donc Bouville. Il a autant d'aptitude à négocier qu'en aura un enfant de 5 ans. Vous verrez bien les résultats. » Le bon serviteur, tout rougissant, se trouva ainsi chargé d'une haute mission qu'il n'attendait pas.